Gloria Darmanin. 7h19, le week-end dernier s'est déroulé le premier vol spatial habité réalisé par une entreprise privée, SpaceX, dirigée par Elon Musk. Alors pourquoi l'entrepreneur fondateur de Tesla se pique-t-il de voyages spatiaux et puis à quoi ça sert finalement, Pascual?
Eh bien, d'ailleurs, quand il a créé cette société SpaceX, le but est évidemment c'est d'utiliser l'espace pour améliorer la communication, c'est-à-dire utiliser un système de satellites. Et effectivement, il a développé un lanceur de façon commerciale. Il a sous-traité, la NASA a sous-traité à SpaceX la fabrication d'un lanceur, puisque depuis 2011, aucune fusée américaine n'a transporté des astronautes américains vers la station spatiale. Ils utilisaient des lanceurs russes et donc ils ont réussi pour la première fois à réenvoyer en quelque sorte, grâce à une fusée américaine, mais d'une société privée, des hommes dans l'espace sur la station spatiale. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est son fameux projet Starlink qui va consister à couvrir la Terre, enfin l'espace, d'à peu près 42 000 satellites. C'est à peu près 6 fois plus que tout ce qu'on a lancé jusqu'à ce jour. Et le but, c'est de pouvoir fournir Internet partout sur Terre, quel que soit l'endroit. Et le bénéfice escompté de ce genre de manipulation, c'est estimé à peu près à 30 milliards de dollars grâce au fait que vous devez utiliser ces satellites à lui. Et il a déjà commencé, donc sa fusée envoie des paquets de 60 satellites en un coup, comme ça. Il est déjà à peu près à 300, 400 en orbite actuellement, et ça va continuer jusqu'en 2025. Il espère atteindre 12 000 satellites et ainsi couvrir toute la Terre d'une possibilité de communication, quel que soit l'endroit sur Terre.
Mais n'importe qui peut envoyer des satellites comme ça dans l'espace. Il faut les autorisations de qui, en fait?
C'est des règles internationales, évidemment. Donc, c'est les pays qui se mettent d'accord. Chaque agence a le droit d'envoyer un certain nombre de satellites, doit communiquer, parce qu'il y a bien entendu aussi les satellites militaires, donc c'est plutôt secret. Vous ne demandez pas à votre voisin si vous pouvez l'espionner. Et donc, là, oui, il a reçu l'autorisation de mettre en orbite ce nombre de satellites. Les astronomes se plaignent, évidemment, parce qu'avoir tout le temps des satellites dans le ciel fait que la nuit n'est plus aussi noire, en quelque sorte. Et donc, là, il y a un petit conflit actuellement. Mais comme il est, je dirais, futuriste, il pense au futur, il a aussi l'ambition d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, et donc de développer un tourisme orbital. Donc, vous payez votre ticket pour aller, par exemple, passer 15 jours dans la station internationale.
Et ça, c'est vraiment un rêve, un doux rêve, ou bien vous pensez que c'est possible et que ça va arriver?
Ça va arriver, c'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est évidemment le bénéfice généré, mais il y a aussi une ambition intellectuelle. Il a fait un bachelor en physique, donc il a, je dirais, cette affinité pour tout ce qui touche l'espace. Et effectivement, la NASA, mais aussi sa société, pense effectivement à retourner sur la Lune, à remettre un être humain sur la Lune. La NASA espère dans les années 2024, et ainsi de voir comment est-ce que les êtres humains peuvent vivre de façon autonome dans un endroit peu accueillant, c'est-à-dire sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, la gravité est basse, etc., avec le but d'aller sur Mars, effectivement. Pour la NASA, ce sera un projet dans 2033, mais par exemple, Elon Musk, lui, il a prévu sa fameuse Mars Base Alpha pour 2028. On ne sait pas s'il va y arriver, bien entendu, mais le but, c'est de fabriquer des nouveaux lanceurs, d'accumuler de nouvelles connaissances, comment est-ce qu'on peut, par exemple, fabriquer de l'oxygène de façon autonome dans une station fermée, comment est-ce qu'on peut fabriquer de l'eau, comment est-ce qu'on peut extraire de l'eau des roches, par exemple. Sur Mars, il y a probablement de l'eau souterraine, donc comment est-ce qu'on va pouvoir l'extraire? Tout ça, ce sont des problèmes technologiques et scientifiques que la NASA explore, évidemment, mais que maintenant, cette société privée SpaceX explore aussi.
Est-ce qu'il a, lui, des intérêts économiques aussi à faire ça? C'est-à-dire que on voit bien, pour quelqu'un qui a de l'argent et qui aime la physique, qui aime les défis scientifiques, à quel point ça peut être génial de se dire qu'on va essayer de réussir à faire ça et mettre les moyens pour le faire. Mais c'est aussi une grosse pub.
Une énorme publicité pour lui. C'est-à-dire que d'avoir réussi à envoyer 2 astronautes par une société privée montre que sa société SpaceX est capable de fabriquer un lanceur, ce que la NASA n'a plus fait, évidemment, depuis les programmes Apollo. Donc, c'est une publicité qui va évidemment bénéficier à sa société, qui par ailleurs va exploiter des satellites de communication.
Et tous ces satellites qu'on met dans l'espace, on entend aussi des voix qui disent que ça pollue, en en fait, enfin, que le ciel va être rempli, et c'est des choses aussi qu'on ne peut pas enlever après de l'espace.
Effectivement.
Et par ailleurs, Elon Musk désigne souvent Mars comme le plan B. Est-ce que ça pose pas quand même un tout petit peu des questions écologiques, en fait, tout ça, se dire bon allez, on saccage la Terre, mais c'est pas grave, il y a un plan B.
Oui, effectivement, il n'y a pas de plan B réel, on ne peut pas vivre sur Mars, la gravité y est à peu près plus faible que celle sur Terre, il n'y a pas d'atmosphère, la pression est extrêmement basse, donc on ne peut pas vivre sur Mars, c'est impossible. Même si lui a un projet complètement futuriste d'installer une station avec 1 million d'habitants, mais c'est tout à fait de la science-fiction actuellement. Et donc c'est pas un plan B, vaut mieux s'occuper du plan A, c'est-à-dire s'occuper de notre Terre, des problèmes de réchauffement et des problèmes d'eau.
Bon, merci beaucoup Pascal pour ce point donc sur la conquête spatiale. Et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Charlotte.
Merci à vous. Eh ben, c'est Roxy Music tout de suite. On part dans les années 80, 1982 plus précisément, et on écoute Avalon.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming, I don't know. Much communication in emotion. With that conversation,